Mes amis, ce texte, nous le connaissons très bien, il est populaire et il est parmi les plus beaux textes de la Bible. Il n'y a pas longtemps, j'avais entendu une personne qui avait assisté à une retraite. Quand elle a reçu le titre, c'était l'enfant prodigue. Cet évangile dit pas encore l'enfant prodigue. J'ai déjà assisté tellement des explications et des prédications sur l'enfant prodigue. Est-ce qu'on va trouver encore quelque chose de nouveau? Il y avait à Ottawa, il y a quelques années, parce que le prêtre dont je veux parler est déjà décédé, en tout cas le père Thiard, Jean-Marie Thiard. Alors lui, il donnait cours en Suisse, il était dominicain ici à Ottawa, et il revenait après donner cours au collège. Et puis, généralement, c'était la période de carême qu'il venait. Et il célébrait chaque samedi la messe, et puis il donnait cours le samedi. Alors, comme dans le carême, la parabole que nous avons entendue tombe un samedi, parfois c'est la troisième semaine, parfois c'est la quatrième semaine de carême, donc le père prêchait sur cette parabole-là. Alors, des étudiants qui l'ont suivi, qui l'ont entendu, ils disent qu'il a prêché au moins 40 fois sur l'enfant prodigue. Et toujours, il a porté quelque chose de nouveau. Voyez-vous ? Donc, pour dire, avec la parole de Dieu, on ne peut pas se fatiguer, on ne peut pas se lasser. Il y a toujours une révélation qui vient nous prendre, qui vient nous toucher. On raconte une belle histoire qui est arrivée en fait aux élèves en Italie du Sud, à l'école secondaire. Un professeur demande à ses étudiants de lire l'enfant prodigue, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont lu. Et puis il dit, maintenant je vous demande de reproduire cette histoire vous-même, telle que vous pouvez imaginer. Inspirez-vous de l'histoire et puis rédigez quelque chose. C'est ainsi que les étudiants de l'école secondaire ont rédigé chacun une histoire qui ressemble un peu à l'enfant du prodigue. Et le texte dit que la majorité, en tout cas, qui ont présenté le texte, disaient à peu près ceci. L'enfant a demandé l'héritage, il a dilapidé l'argent, il est revenu à la maison. Le père lui a dit, allez, tu restes avec les ouvriers là-bas, les serviteurs. Et puis, jusqu'à ce que tu te rendes compte comment tu as dilapidé l'argent de la famille, l'héritage de la famille. Donc, il punit l'enfant qui reste au niveau des serviteurs. Vous voyez comment on exprime les sentiments humains. De toujours, ce texte a toujours été compris comme mettant l'accent sur l'enfant. Et moi, je le comprenais aussi comme ça, l'enfant du prodigue. D'ailleurs, c'est comme ça que même les spécialistes eux-mêmes semblaient mettre l'accent sur l'enfant, parce que ça portait le nom officiel, la parabole de l'enfant prodigue. Alors, une première fois, j'étais déjà devenu prêtre, j'entends un professeur dire, mais en fait, ce texte-ci ne parle pas de l'enfant prodigue comme tel. Disons que ce n'est pas l'enfant qui est au centre, c'est le père qui est au centre. Oh, Jésus parle du père, par ricochet, il parle des enfants. Il voudrait présenter l'image du Père. Mais c'est une autre approche aussi. Alors maintenant, il y a des tendances, on veut changer le titre. Parfois, il y en a qui parlent le Père du prodigue. Tu vas entendre ça. Parfois, d'autres qui disent, c'est l'histoire dramatique du Père avec ses deux enfants. On met l'accent sur le Père. En fait, qu'est-ce que le Père dit? En fait, c'est l'amour du Père. Le Père est en attente. L'enfant est parti. Le Père attend. Il est patient. Il est magnanime, il est miséricordieux. Et quand le fils a fait le pas de revenir, lui court. Il va le prendre, il fait soi, parce que son fils est revenu. C'est le pardon, la miséricorde de Dieu, la bonté infinie de Dieu. Mais maintenant, vous et moi, nous sommes représentés par les deux fils. Le premier qui est parti, qui a tout gaspillé, c'est toi. C'est moi. Quand nous avons fait nos péchés, quand nous nous sommes renfermés sur nous-mêmes avec notre orgueil, nous nous sommes coupés de Dieu, nous avons voulu nous suffire à nous-mêmes, compter sur nos propres forces et vivre la séparation avec Dieu, la séparation avec notre famille, la séparation avec nos frères et sœurs. On s'est assis sur nous-mêmes, nous sommes partis loin de Dieu. Voilà le péché, la coupure avec Dieu, le non. On dit non à Dieu, non à l'amour de Dieu. Voilà, à ce moment-là, nous faisons ce retour intérieur pour revenir à la maison. Nous sommes cet enfant-là qui est parti. Mais nous sommes aussi cet enfant qui est resté parce que et l'enfant qui est parti et l'enfant qui est resté, tous les deux doivent faire une démarche de pénitence, de conversion. L'autre doit se convertir pour revenir à la maison, mais ce qui revient à la maison, il est incapable de partager la bonté du Père. Il est incapable de pardonner à son frère comme le Père lui a pardonné. Il ne peut pas participer à la fête. Il n'est pas d'accord avec ce genre de vivre de son Père, ce genre d'agir. Alors il faut qu'il se convertisse. C'est vous, c'est moi. Parce que nous avons parfois de la difficulté au partage, nous avons de la difficulté au pardon, nous avons de la difficulté à exprimer la bonté de Dieu. Nous nous fatiguons de pardonner, nous nous fatiguons d'être bons, d'être bonnes. Alors nous exprimons l'image de ce deuxième fils. Alors dans la messe d'aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous convertir à deux reprises, de nous ôter le visage de l'enfant prodigue qui est parti et qui est revenu, de faire de nous, eh bien, des personnes qui restent avec le Père continuellement à chaque instant de nos vies, dans nos décisions, dans nos manières de faire les choses. Mais nous allons demander aussi de purifier notre visage, d'enlever le visage de cet aîné qui est resté à la maison, qui ne veut pas partager la bonté de Dieu, qui ne veut pas s'ouvrir à la miséricorde de Dieu et qui s'enferme aussi à lui-même, qui pense seulement à son moi, à son égoïsme. Alors, nous allons demander cette conversion double dans la messe d'aujourd'hui. Et cette conversion double, il faut la vivre durant l'Eucharistie. Je termine avec cet bel exemple que le pape François avait partagé dans une de ses audiences publiques. En tout cas, la première année où il est devenu pape, il racontait l'histoire d'une abuela. Abuela, c'est grand-mère, hein, dans leur langue espagnole en Argentine. Voilà que une fois, il était évêque auxiliaire de Buenos Aires. Et puis, il était parti confesser dans une paroisse, Notre-Dame de Fatima. Il a confessé, il a fini. Le temps était venu qu'il aille ailleurs, faire un autre ministère. Alors qu'il sortait de l'endroit où il confessait, une dame entre d'un certain âge, qu'il a appelé grand-mère. Il a vu la dame arriver, il dit « Grand-mère, est-ce que tu veux te confesser ?» Il dit « Oui ». Il dit « Mais tu n'as pas de péché, toi ?» Il dit « Tout le monde a des péchés. » C'est ce que dit la grand-mère. Et puis le pape, à ce moment-là, évêque, il lui dit « Oui, mais peut-être que Dieu ne pardonne jamais les péchés. » Il dit « Oui, 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 Dieu pardonne tous les péchés. » Alors le pape lui demande « Mais comment tu le sais, toi ?» Il dit « Si Dieu ne pardonnait pas les péchés, le monde n'existerait pas. » Alors le pape a été saisi par ces paroles-là, il a gardé ça de tout son cœur, il a partagé ce jour-là devant les personnes qui étaient venues faire l'Angélus sur la place publique pour dire que le Père du Miséricordieux, s'il ne nous pardonne pas, nous ne pouvons pas subsister. Vous vous rappelez le psaume qui dit « Seigneur, si tu ne pardonnes pas les péchés, qui peut subsister? Qui peut lever ta face te regarder ?» Eh bien, le Père du Miséricordieux, il avait déjà pardonné le fils qui est parti. Parce qu'il n'avait pas pardonné ce fils-là, il se serait détruit lui-même. C'est parce qu'il avait déjà pardonné qu'il a pu revenir. Et Dieu pardonne continuellement. Et de nous dire, Dieu pardonne toujours sans relâche, sans fatigue. Alors, il ne faudrait pas que nous fatiguions de lui demander pardon. Alors, on va continuer à prier, demander que cette image du Père vienne nous saisir, vienne nous transformer, faire de nous des personnes nouvelles. Amen. Amen.